VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 13 octobre 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Tout d'abord les titres. L'ONU informée par Israël de l'ordre d'évacuer 1,1 million d'habitants du nord de Gaza vers le sud d'ici 24 heures. En RDC, le président Félix Tshisekedi annonce un allègement graduel de l'état de siège dans l'Est. À Madagascar, la justice reporte d'une semaine le premier tour de la présidentielle initialement prévu le 9 novembre. Le sénateur américain Bob Menendez, déjà accusé de corruption, a été inculpé pour avoir agi comme agent de l'Égypte. Chaos au Congrès américain, le candidat républicain au poste de speaker au président de la Chambre basse renonce à la course. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'ONU a été informée par l'armée israélienne le 12 octobre, juste avant minuit heure locale, d'un ordre de relocalisation de quelque 1,1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud dans les 24 heures, a indiqué jeudi à l'AFP le porte-parole du secrétaire général de l'organisation, réclamant que cet ordre soit annulé. Stéphane Dujarric a précisé qu'une évacuation d'une telle ampleur était impossible sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis jeudi que le Hamas serait écrasé comme le groupe djihadiste État islamique après avoir reçu le soutien appuyé des États-Unis dans la guerre contre le mouvement islamiste palestinien qui a déjà fait des milliers de morts. Le point avec John Linden.
Nous serons toujours à vos côtés, a assuré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken après un entretien avec le premier ministre israélien au sixième jour de ce sanglant conflit entre le Hamas et Israël. Le chef de la diplomatie américaine s'est montré touché par les photos abominables des bébés tués et brûlés par le Hamas et des décapitations imputées à ce groupe. Dans un communiqué, le Hamas a pour sa part nié avoir commis des atrocités, accusant Israël de désinformation. Tout comme le groupe État islamique a été écrasé, le Hamas sera écrasé, a affirmé M. Netanyahou, laissant présager une offensive terrestre à Gaza contre le Hamas, qui détient toujours quelque 150 otages. En Jordanie, où il est arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi, M. Blinken doit rencontrer le roi Abdallah II et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Ce dernier a rejeté ce qu'il a appelé le meurtre des civils des deux côtés et exigé, je cite, « la fin immédiate de l'agression contre le peuple palestinien ». Le secrétaire d'État américain est ensuite attendu au Qatar pour des discussions sur le Hamas avant d'aller en Arabie Saoudite, en Égypte et aux Émirats Arabes Unis. Environ 1 200 Israéliens, à majorité des civils, ont été tués dans l'offensive du Hamas et 1 417 Palestiniens selon les autorités locales, dont de nombreux civils.
Des raids israéliens ont visé hier les aéroports de Damas, la capitale syrienne, et de la ville d'Alep, les mettant hors service. Ces frappes sont les premières sur la Syrie depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, Mohamed Houmfa.
Selon une source militaire syrienne citée par les médias d'État, des frappes aériennes simultanées ont été menées par, je cite, « l'ennemi israélien » sur les aéroports de la capitale et de la deuxième ville de Syrie. Les frappes ont endommagé les tarmacs des deux aéroports, les mettant hors service. Les vols ont ainsi été redirigés vers l'aéroport de Latakié, selon le ministère syrien des Transports. Le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné l'attaque, la qualifiant de tentative d'Israël d'exporter sa crise. Ces raids sont intervenus alors que le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, dont le pays est un grand allié de Damas, a entamé jeudi en Irak une tournée régionale qui doit le mener en Syrie et au Liban. Ils surviennent quelques heures après un appel téléphonique du président iranien Ebrahim Raisi à son homologue syrien Bachar al-Assad. Monsieur Raisi a demandé aux pays musulmans et arabes de se coordonner pour stopper les crimes d'Israël. Mardi, pour la première fois depuis le début de l'offensive du mouvement palestinien, l'armée israélienne avait annoncé avoir tiré des obus sur la Syrie à partir du plateau du Golan en riposte à des tirs de projectiles sur ce territoire occupé par Israël depuis 1967.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a annoncé jeudi soir un allègement progressif et graduel de l'état de siège instauré en mai 2021 dans deux provinces de l'est du pays en proie aux violences de groupes armés. Fatouma Kalala Alimassi.
Cette mesure d'exception prise pour le Nord Kivu et l'Ituri a restreint les libertés publiques et remplacé l'administration civile par des responsables militaires et policiers sans parvenir à ramener la paix. Mais Félix Tshisekedi relève une amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées. 2 ans et 4 mois après son instauration, le président congolais a déclaré dans un discours télévisé à la Nation « J'ai opté pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. Ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la RDC, a-t-il dit. Ceci implique la levée des restrictions constitutionnelles des citoyens, notamment la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté de manifestation pacifique et de réunion, a-t-il ajouté. Ceci est d'autant plus important, a poursuivi Félix Tshisekedi, que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit d'y participer pleinement et sans entrave. Des élections présidentielles, législatives, provinciales et locales sont prévues le 20 décembre de cette année et M. Tshisekedi est candidat à sa réélection.
À Madagascar, le premier tour de l'élection présidentielle initialement prévue le 9 novembre a été reporté d'une semaine suite à la blessure d'un candidat lors d'une manifestation de l'opposition. La Haute Cour constitutionnelle ordonne le report du premier tour de l'élection présidentielle au 16 novembre, a annoncé hier la plus haute juridiction de la grande île de l'océan Indien. Le second tour du scrutin est maintenu au 20 décembre, mais la campagne électorale qui a officiellement débuté lundi et prolongé d'une semaine. 13 candidats sont en lice pour et dont le président sortant Ange Rajoelina et l'ancien président Marc Ravalomanana. Le sénateur américain Bob Menendez est désormais poursuivi pour avoir agi comme agent de l'Égypte, ont annoncé jeudi les autorités judiciaires. Monsieur Menendez est déjà visé par 3 chefs d'accusation pour corruption et trafic d'influence au profit du Caire, Nanit Talani.
Monsieur Menendez est accusé d'avoir utilisé son pouvoir et son influence au profit de ses complices présumés et du gouvernement égyptien en échange de centaines de milliers de dollars. Le sénateur démocrate du New Jersey, son épouse et 3 complices présumés sont déjà poursuivis depuis septembre pour corruption et prévarication. À cela s'ajoute désormais, à l'exception de 2 complices présumés, l'accusation d'avoir agi comme agent d'une puissance étrangère, à savoir le gouvernement égyptien, indique l'acte d'accusation signé par un procureur fédéral de New York, Damian Williams. Lors d'une perquisition au domicile du couple, le procureur avait détaillé la découverte de liasses de billets fourrés dans les poches de sa veste, 3 kilos de lingots d'or et une voiture de luxe. Bob Menendez a rejeté les appels à sa démission, mais a renoncé temporairement à la présidence de la Commission des affaires étrangères du Sénat et a plaidé non coupable.
Face à des négociations interminables et sans issue, l'élu de Louisiane, Steve Scalise, le candidat républicain au poste de président de la Chambre des représentants, a renoncé jeudi soir à se présenter, laissant le Congrès s'enfoncer davantage dans la crise. Monsieur Scalise, chef du groupe des Républicains, avait remporté mercredi dernier de justesse une élection informelle pour remplacer Kevin McCarthy. La Minute Éco, Eric Manirakidza.
Le PIB du Soudan va se contracter de plus de 18% en 2023 à cause de la guerre entre généraux qui a plongé ses 48 millions d'habitants dans le chaos, estime le FMI. Pour les experts, les violences et les pillages ont signé la désindustrialisation du Soudan. La plupart des salaires n'ont pas été payés depuis des mois et le système bancaire, déjà quasiment inexistant en temps de paix, a été fortement affecté par les violences. L'agriculture, près de 40% du PIB et 80% des emplois selon l'ONU, a été fortement touchée. La livre soudanaise a ainsi récemment plongé. Elle a perdu 50% de sa valeur depuis le début de la guerre. Une grave épidémie de grippe aviaire qui sévit en Afrique du Sud depuis plusieurs semaines prive les étals d'œufs, incitant certains supermarchés à augmenter les prix ou rationner leurs ventes. L'Afrique du Sud est l'un des principaux producteurs de volailles du continent. La maladie a depuis décimé des millions de poulets, selon la filière. Un tribunal kényan a rejeté jeudi une plainte d'une association d'avocats qui contestait la décision des autorités d'autoriser la culture et de l'importation d'OGM pour faire face à la grave sécheresse qui sévit dans le pays. Le Kenya avait banni la culture d'OGM, notamment pour protéger les petites exploitations agricoles majoritaires à l'échelle du pays. L'agriculture est le principal contributeur à l'économie du Kenya, représentant environ 21% du PIB en 2022 selon les autorités.
Merci Eric. À présent, les sports, Nanit Talani. Nanit, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les 24 équipes qualifiées pour la CAN 2023 sont désormais fixées sur leur groupe et leurs adversaires.
Les 24 équipes qui ont réussi l'exploit de s'être qualifiées pour la 34e édition de la CAN, la compétition la plus prestigieuse de football africain, connaissent en effet leur groupe après le tirage au sort des 6 groupes qui a eu lieu hier, jeudi, au Parc des Expositions d'Abidjan en Côte d'Ivoire, futur pays hôte. Amine Birouk a assisté au tirage au sort à Abidjan.
Le sort n'a guère été clément avec les tenants du titre de la CAN. En effet, la bande à Sadio Mané a hérité du Cameroun qui aura à cœur de faire oublier un parcours qualificatif décevant, de la Guinée du buteur de la Bundesliga Guirassy et de la Gambie, nation émergente capable de créer l'exploit en cours de compétition. L'hôte ivoirien s'en tire un peu mieux mais devra tout de même batailler avec le Nigeria d'Osimhen, la Guinée équatoriale, quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde et la Guinée-Bissau. La Tunisie sera également dans un groupe piégeux avec le Mali et l'Afrique du Sud, la Namibie complétant ce groupe E. En revanche, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte ont été plutôt épargnés par le sort. Les Lions de l'Atlas, quatrième de la dernière Coupe du Monde, en découdront avec la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. Ces deux dernières nations, d'ailleurs, croiseront le chemin des Marocains lors des prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Fennecs, eux, retrouveront sur leur chemin le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola dans un groupe D très abordable. Enfin, les Pharaons d'Égypte seront en pole position devant les Black Stars du Ghana en légère perte de vitesse, du Cap-Vert et du Mozambique, des adversaires a priori à la portée des coéquipiers de Mohamed Salah. Depuis Abidjan, Amine Birouk pour la VO Afrique.
CAN 2023 toujours, 4 des sélections africaines qualifiées pour cette grande rencontre sportive régionale ont joué 3 matchs amicaux hier.
Il y a eu 3 matchs amicaux concernant l'Égypte, la Zambie, le Cameroun, l'Algérie et le Cap-Vert. Le Cameroun s'est incliné 0-1 face à la Russie à Moscou. C'est la deuxième défaite en 3 confrontations des Lions Indomptables face à la Russie après le lourd revers 6-1 en Coupe du Monde 1994. Les Lions ont désormais le regard tourné vers le 16 octobre prochain lorsqu'ils joueront contre leurs homologues de la Teranga du Sénégal. Il y aura sans doute beaucoup de piquant dans ce derby amical car, comme l'a dit Amine Birouk, les deux Lions se retrouvent dans le groupe C avec bien sûr la Guinée et la Gambie. Ils vont donc chercher à s'évaluer sérieusement avant la CAN. Enfin, dans les autres rencontres, l'Égypte a battu la Zambie 1-0 aux Émirats Arabes Unis et puis l'Algérie à domicile a largement dominé le Cap-Vert par 4-0 à Constantine.
Merci Nanit.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, Sylvia Bongo Ondimba à la prison centrale de Libreville, un peu plus de 2 semaines après avoir été inculpée par un juge d'instruction pour recel, faux et usage de faux, puis détournement de fonds publics. L'ex-première dame du Gabon a été placée en détention provisoire mercredi soir par le procureur de la République. À Libreville, les réactions se multiplient pour saluer l'opération de moralisation de la vie publique engagée par les militaires depuis leur prise de pouvoir. Ismaël Obiangze, notre correspondant sur place, nous en dit plus.
Les chefs d'inculpation qui pèsent contre l'ex-première dame révèlent les dessous de ce que l'on pourrait qualifier de Bongo Gate. Sylvia Bongo Ondimba répond des faits de concussion, blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Elle rejoint donc son fils Noureddine Bongo Valentin et certains de leurs proches à la prison centrale de Libreville. Plusieurs membres de l'entourage du président de CHU, Ali Bongo Ondimba, sont, selon les cas, poursuivis pour des faits de corruption, malversation financière et même de trafic de stupéfiants. D'après le commun des Gabonais, cette saga judiciaire ouvre une nouvelle ère sous le régime militaire.
C'est un signe qu'on adresse à tous les prévaricateurs et tous ceux qui ont participé à la gestion du Gabon et qui ont des comptes à rendre avec la justice. Que si c'est Sylvia qu'on prend, c'est dire que le reste de la chaîne va suivre.
Aujourd'hui, peu importe la catégorie et la tranche d'âge ou encore le rang social, toute personne est censée être poursuivie par la loi et la constitution gabonaise selon ce qui lui est reproché.
Imaginez un seul instant qu'on ait pu trouver toutes les sommes d'argent qu'on a annoncées dans l'un des domiciles de l'ex-première dame. C'est choquant quand on sait qu'il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, que les établissements scolaires ne sont pas conséquemment approvisionnés en matériel didactique et même que nous sommes en déficit en termes de structure. Déjà de savoir que l'ex-première dame a été écrouée, c'est un sentiment de satisfaction, mais il ne faudrait pas que la justice s'arrête rien qu'à ce stade.
Toutefois, au terme des 10 jours de détention provisoire, Sylvia Bongo Ondimba sera à nouveau convoquée par un juge d'instruction qui devra statuer définitivement sur son cas. Ismaël Obionze pour VOA Afrique, Libreville.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Au Togo, l'Assemblée nationale met en place une commission spéciale d'enquête sur l'utilisation des fonds Covid de l'année 2020. En février, un rapport d'audit de la Cour des comptes avait relevé de graves irrégularités dans la gestion des sommes allouées à la lutte contre la maladie par certains membres du gouvernement. Au sein de l'opinion, le doute persiste quant au bien fondé de la création de cette commission d'enquête, d'autant que les parlementaires avaient déjà accepté les explications des ministres indexés. De Lomé, notre correspondant Koussi Woussou.
C'est au cours d'une session de l'Assemblée nationale que Chantal Yawa-Tchegan, la présidente de l'institution, a fait l'annonce de la création de la commission spéciale d'information et d'enquête.
La commission spéciale sera chargée de désigner une mission d'information ou d'enquête en vue d'auditionner toutes les personnes qu'elle jugera utile d'entendre, particulièrement celles ayant eu des responsabilités dans la gestion de la COVID-19 en lien avec le rapport d'audit de la Cour des comptes. Nous recommandons à la commission de s'organiser pour avancer dans la mise en œuvre de cette mission que la plénière lui confie.
La commission d'enquête dispose de 45 jours pour déposer son rapport. Tout en se réjouissant de l'initiative prise par l'Assemblée nationale, c'est un sentiment de doute mais aussi d'espoir qui anime Pasteur Edo Komi, le président du mouvement Martin Luther King, une organisation de la société société civile.
Ça vaut mieux que jamais l'annonce de la création au sein de l'Assemblée nationale togolaise d'une commission d'enquête sur la gestion de la COVID-19 et accueille comme une bonne nouvelle. Mais faut-il attendre que la fumée blanche sorte de cette commission et que les responsabilités soient situées? Personne ne se le dit.
L'activiste Emenefa Eklou est plus catégorique. Elle parle de diversion de l'Assemblée nationale.
Je crois qu'on se moque de nous. Quelles commissions vont-ils pouvoir mettre en place pour trancher sur la gestion de COVID? Cette Assemblée nationale est à la solde du régime et n'est donc pas indépendante. Je doute moins fort qu'ils soient capables de mener des enquêtes proprement dites pour donner raison au peuple et impliquer les vrais coupables qui ne sont que ceux qui sont au sommet du pouvoir.
Jean Kissi, ancien parlementaire de l'opposition, ne comprend pas le volte-face de l'Assemblée nationale.
Cet événement s'est passé. Tout le monde a crié. Les associations de consommateurs ont sorti des éléments palpables. Et contre tout ce contrôle citoyen de l'action publique, les gérants de cette situation sont allés faire un théâtre devant l'Assemblée qui les a applaudis. Et puis, patatras, quelques mois après, on dit que, finalement, ce dossier mérite une enquête parlementaire. Tout ça jette du discrédit sur nos pays.
Un membre de la commission d'enquête parlementaire écrit qu'il ne sait pas où mènera cette mission, mais il trouve que le simple fait qu'elle existe est déjà un bon début. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Face à la progression des maladies non transmissibles sur le continent, notamment les AVC, cancers, affections respiratoires ou encore diabète, ces maladies qui se développent en raison de différents facteurs comportementaux, tabagisme, sédentarité, sucre, malbouffe, des médecins sénégalais tirent la sonnette d'alarme. Le point avec notre correspondante Alison Fernandez.
Au centre hospitalier national universitaire de Fane à Dakar, voilà près de 4 décennies que le professeur Amadou Gallo Diop consulte des malades. Il est aujourd'hui chef du service neurologie et il s'inquiète de l'augmentation drastique du nombre d'accidents vasculaires cérébraux.
Ce qui est remarquable surtout, c'est que l'âge moyen des malades qui viennent pour accidents vasculaires cérébraux est en train de devenir de plus en plus jeune. Et ça, c'est quelque chose d'assez inquiétant, qui reflète une mauvaise hygiène de vie, notamment alimentaire, qui s'installe de plus en plus dans nos pays.
Tu fais du sport régulièrement?
Sédentarité, tabagisme, malbouffe, alcool, pollution. Le professeur Gallo Diop pointe particulièrement du doigt les produits importés, comme ces boissons gazeuses bon marché vendues aux enfants, ou encore les bouillons culinaires apparus dans les années 50 sur le continent, est désormais omniprésent dans les assiettes.
C'est un concentré de sel à des taux incroyables, enrichi de glutamate. Et le glutamate, c'est un neurotransmetteur excitateur du système nerveux. Okay. Et d'autres ingrédients, et vous n'avez même pas la liste des ingrédients sur les étiquettes qu'on vend en Afrique.
Diabète, hypertension, AVC ou encore cancer, les maladies non transmissibles, longtemps associées à l'Occident, inquiètent désormais sur le continent. Elles étaient même au cœur du dernier forum Galien Afrique qui s'est tenu la semaine dernière à Dakar. En 2022, ces maladies étaient responsables de 45% des décès au Sénégal, selon des chiffres du ministère de la Santé, causant plus de morts que le paludisme, la tuberculose et le VIH réunis.
Nous avons un double fardeau. Le double fardeau des maladies infectieuses qui existent encore, bien qu'il y ait eu beaucoup d'améliorations avec les vaccinations. Mais il y a aujourd'hui quelque chose qui inquiète, c'est la montée des maladies non transmissibles. Pas seulement le doublement, le triplement, parfois une multiplication par 5 en même pas 10 ans.
Les autorités sénégalaises s'apprêtent à mener la deuxième enquête nationale sur les maladies non transmissibles. Le but, connaître leur prévalence nationale et affiner la recherche sur les facteurs de risque. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Hello everyone! Voulez-vous mieux parler l'anglais? Retrouvez Learning English tous les soirs à partir de 21h30 EU sur VOA Afrique. Un programme entièrement en anglais qui facilite la compréhension de l'anglais parlé en vous présentant des sujets d'actualité à travers une lecture posée, des phrases et un vocabulaire bien adapté. Ne manquez pas cette immersion totale en anglais. Branchez-vous quotidiennement sur VOA Afrique à 21h30 EU, juste après English USA.
En vue d'aider l'Afrique à atteindre les objectifs de développement durable récemment mis en exergue par la 78e Assemblée générale de l'ONU, des experts, des entreprises et des représentants des collectivités territoriales de l'association Je m'engage pour l'Afrique ont décidé d'unir leurs efforts pour repenser l'attractivité des villes secondaires africaines. Un ouvrage est né de leur réflexion intitulé « Nouvelle voie, les jeunes architectes des villes secondaires africaines de demain ». Pour en savoir davantage sur ce projet, Jean-Roger Bion a joint à Paris Kevin Tchanna, chercheur résident de l'association « Je m'engage pour l'Afrique ».
Le choix des villes secondaires est pertinent déjà parce qu'il vient répondre à des problèmes auxquels sont confrontées les grandes villes. Je parle ici de problèmes de logement, de problèmes de transport, de problèmes d'assainissement. Et donc, en s'intéressant aux villes secondaires, on apporte des solutions concrètes, vivantes et réelles pour permettre de décongestionner les grandes villes, pour que les villes secondaires soient non seulement plus intéressantes sur le plan de l'habitat, mais également sur le plan des nids et sur le plan de l'environnement.
Alors, les conclusions des 20 jeunes qui ont participé à la résidence JMA proposent une réflexion sur trois villes africaines. Anéo au Togo, Abomey Calavi au Bénin et Benguéri au Maroc. Quelles solutions ont suggéré l'exploitation des données sur ces villes?
Alors, l'exploitation des données ont suggéré trois solutions en effet. En ce qui concerne Anéo au Togo, c'est la mise en place d'un centre de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme en partenariat avec la mairie et le groupe hôtelier Onomo. En ce qui concerne Abomey Calavi, c'est la mise en place d'un système de gestion de transport, d'une part, et d'autre part, un centre de formation, un centre de financement pour améliorer le niveau de vie des habitants. Et en ce qui concerne Benguéri au Maroc, c'est, n'est-ce pas, la mise en place d'un dialogue concerté entre le pouvoir public, les entreprises privées et la société civile.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les solutions citoyennes proposées pour développer donc l'attractivité des villes africaines?
Il est important d'avoir pour l'Afrique une vision, parce que c'est la vision qui sous-tend la grandeur des infrastructures et surtout la grandeur des projets. Capable de quitter d'un point A, qui est la situation actuelle, pour aller vers un point B, qui est une meilleure situation, de sorte que lorsqu'on parle de villes comme telles que je viens de les citer, on puisse aussi retrouver Yaoundé, Abidjan, Monrovia, Addis Abeba.
Alors, comment se fera le financement de ces villes?
C'est le projet qui apporte de l'argent, c'est pas de l'argent qui apporte le projet. Parce que quand on pense que c'est l'argent qui apporte le projet, là, on se trouve déjà bloqué. Et donc, il faut penser projet, et à travers le projet, on aura de l'argent. Quand on a construit, par exemple, les grandes infrastructures du côté de l'Occident, c'est pas à l'argent qu'on a pensé en premier. On a d'abord construit et après on a remboursé les dettes puisque le tourisme s'est développé. Donc, en Afrique, c'est le même projet qui est replicable à travers la question du financement. Mais c'est aussi d'intéresser tous les bailleurs de fonds qui pourraient voir là une aubaine pour pouvoir développer leurs activités et surtout leur rayonnement à travers l'Afrique et le reste du monde.
Kevin Tchanda, chercheur résident de l'association Je m'engage pour l'Afrique. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.